magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons migration et économie, un sujet qui ne date pas d'hier.
Dans le village où j'habite, on a un étranger. Quand on le voit passer, on dit tiens, ça, là, ça, c'est l'étranger. Comme un objet, on n'a pas de respect. L'étranger a voulu me parler. Il m'a dit, mais ne pensez-vous pas que vous êtes ridicule, à notre époque, de ne pas aimer les étrangers? J'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol, moi, votre pain et de votre France. Je m'en vais. Il fout le camp. Et depuis ce jour-là, dans notre village, nous ne mangeons plus de pain. Il était boulanger.
50 ans après le grand comique Fernand Reynaud, la question des étrangers et du travail en France est toujours d'actualité, mais ceux qui en parlent ne sont plus des comiques.
Quand j'aurai trouvé du travail à 5 millions de personnes qui en cherchent en France, on pourra éventuellement envisager, si entre-temps on a réussi à créer plus d'emplois que ces 5 millions, d'aller rouvrir les frontières. Mais plus vous avez de gens qui cherchent un emploi, moins il y a de chances sur le nombre de candidats, évidemment, de trouver de l'emploi. Et plus en plus, les salaires partent à la baisse. Le marché du travail est un marché de l'offre et de la demande.
Vous aurez reconnu Marine Le Pen, la présidente du Front National, lors de la précédente campagne présidentielle. C'était le 6 mars 2012 sur RFI dans Mardi Politique au micro de Guillaume Nodin. Et puis, alors que les déclarations des dirigeants de gauche sur le sujet sont plus que rares, François Hollande a abordé le sujet hier lors de l'inauguration de nouveaux bâtiments de l'école d'économie à Paris.
Est-ce que les migrations sont favorables à la croissance ? Incontestablement, puisque la migration va avoir des effets sur la consommation, l'innovation, la productivité, sans pour autant qu'il y ait nécessairement baisse des salaires au détriment des salariés du pays d'accueil.
Ce qui m'amène à soulever une question, une seule. L'immigration est-elle un problème économique pour les pays d'accueil comme la France ou les États-Unis, ou est-ce au contraire, comme le disait à l'instant François Hollande, une source d'enrichissement? Et a posé la question à des chercheurs, des économistes, avec la volonté de dépassionner le débat. Trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Elmoub Mouhoud.
Bonjour.
Elmoub Mouhoud, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris Dauphine, dont vous êtes aussi vice-président. Vous dirigez le Master Affaires Internationales, vous êtes spécialiste des délocalisations, de la mondialisation, des migrations, et vous signez aux éditions Fayard un livre intitulé « L'immigration en France » sous titre « Mythes et réalités ». Est-ce qu'il y a loin entre la réalité que vous décrivez et ces mythes que vous décrivez aussi ?
Oui, bien sûr, il y a un écart de perception et c'est ce que nous essayons de faire en mettant à la disposition du grand public les travaux récents des économistes menés en France et à l'étranger.
Alors, souvent, quand on termine un livre, Elmoub Mouhoud, on remercie ceux qui ont aidé à sa rédaction, fourni des informations, vous n'échappez pas à cette règle, et j'ai eu la surprise de découvrir que les deux autres invités de cette émission figuraient dans la liste des personnes que vous remerciez. Bonjour, Flore Gubert.
Bonjour.
Flore Gubert, vous dirigez le département Société, avec un S, donc au pluriel, hein, de l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et vous êtes chercheuse au DIAL, un des laboratoires de cet institut. Un laboratoire qui travaille sur la mondialisation et le développement. Un des derniers travaux que j'ai trouvé et que vous ayez publié avec Jean-Noël Sen pour le compte de l'OCDE s'intitule « Est-ce que l'Union européenne est attractive pour les migrants potentiels ?» Quelle est la réponse?
La réponse est un peu en demi-teinte également, parce que on s'aperçoit que les discours très anti-immigration font que certains pays européens sont moins attractifs qu'ils n'ont pu l'être par le passé, et ça tient en partie aussi aux conditions d'accueil dans lesquelles se retrouvent les immigrants une fois qu'ils arrivent dans nos pays.
Je termine ce tour de table avec vous, Jean-Christophe Dumont. Bonjour. Jean-Christophe Dumont, vous êtes le chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Alors quand on entend ce titre, chef de la division des migrations internationales, on pourrait croire que c'est vous qui organisez le va-et-vient des migrants dans les pays de l'OCDE, c'est le cas ?
Absolument pas, mais cela dit, une des tâches qu'on a, qui incombe à l'OCDE dans ce domaine, c'est de faire un suivi précis des flux, des mouvements et des politiques. Et donc c'est en partie de ça dont l'équipe avec laquelle je travaille est responsable.
Dans cette émission des reportages, nous irons d'abord en Turquie rejoindre Camille Lafrance, puis dans la deuxième partie de cette émission, nous irons à Berlin avec Nathalie Versieux et enfin aux États-Unis, en Californie, avec Nicolas Champ. Jean-Christophe Dumont, est-ce que globalement, on a une idée du rôle que jouent les migrants dans l'économie mondiale ?
Alors globalement, on parle d'environ 240 millions de migrants internationaux dans le monde. Environ 3% de la population mondiale,
un
pourcentage qui est relativement de nombre de personnes qui ont migré dans un autre pays. Donc c'est le résultat de l'histoire du phénomène migratoire et pas un mouvement annuel et un pourcentage de la population mondiale qui est relativement stable. Évidemment, vers les pays de l'OCDE qui sont des pays en moyenne plus riches, plus avancés, une partie important de ces flux a lieu. Environ la moitié des flux sont vers les pays de l'OCDE, l'autre moitié donc vers des pays du Sud, notamment par exemple à l'intérieur du continent africain ou en Amérique latine. Donc finalement un phénomène qui attire beaucoup d'attention, mais qui quantitativement est relativement marginal à l'échelle du monde.
Alors on sait que les migrations clandestines en particulier enrichissent beaucoup les passeurs, des réseaux de clandestins. El Moumoud, est-ce que ces migrations sont un apport important pour les pays d'accueil en général ? Est-ce qu'on a une idée globale de cette donnée-là ?
La littérature économique, elle a au moins un consensus sur une question, c'est que l'impact des migrations internationales sur les pays d'accueil est d'une faible amplitude, d'une faible ampleur, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit sur les salaires, et que ce soit évidemment sur les phénomènes de consommation, de protection sociale.
C'est-à-dire en bien ou en mal ?
Oui, c'est d'une faible amplitude. En revanche, les effets sur les pays d'origine sont bien plus importants. Ça, c'est vraiment le consensus. Après, on peut rentrer dans la discussion pour savoir si ça a des effets positifs ou négatifs. Et là, la littérature est aussi assez précise, finalement. Il y a un débat sur les salaires, par exemple, entre des économistes américains puis des économistes européens. Et selon les hypothèses qu'on formule, l'impact est plus ou moins positif sur les salaires des autochtones. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ça n'a pas un effet négatif sur les salaires des natifs nécessairement. Ça peut même avoir des effets positifs sur les salaires des natifs si on décompose le travail, on tient compte de l'hétérogénéité du travail et si on regarde les tâches que portent les travailleurs, en particulier les tâches que portent les travailleurs natifs qui sont dans un pays comme en France, par rapport aux tâches portées par les travailleurs immigrés. Évidemment, c'est pas les mêmes tâches. Donc la relation entre les migrants et les natifs est une relation plus de complémentarité sur le marché du travail que de substitution, que de concurrence. Et c'est la raison pour laquelle ça peut avoir des effets positifs sur l'emploi des autochtones et sur les salaires des autochtones. C'est pas facile à expliquer quand on est dans une période de chômage de masse, mais c'est la réalité. Et dans les travaux qu'on a à peu près en France aujourd'hui, on peut avoir des effets positifs sur les salaires des autochtones de 3%, de 5%. Enfin bref, l'effet est faible, mais l'effet est relativement positif. Alors je terminerai sur la croissance. La question de savoir si c'est un facteur qui déclenche la croissance ou pas, mais non.
Évidemment, c'est ce que disait François Hollande tout à l'heure.
Ce n'est pas l'immigration qui déclenche les phénomènes, de même que ce n'est pas à l'immigration de régler les problèmes du marché du travail à long terme. L'immigration accompagne des processus. Évidemment, quand on a une croissance qui est forte, comme c'était le cas en Espagne, par exemple, au début des années 2000, eh bien, l'immigration a été un facteur d'amplification de la croissance. Mais ce n'est pas ça qui est à l'origine de la croissance économique. Donc, il faut rétablir aussi les faits pour ne pas faire jouer un rôle à l'immigration qui n'est pas le sien. Le rôle, l'impact sur les pays d'accueil est positif. tous les travaux le montrent, mais il est d'une faible amplitude. En revanche, l'impact sur les pays en développement d'origine est un impact bien plus important, en ampleur bien plus important. L'impact sur le commerce mondial est aussi beaucoup, beaucoup plus important. Donc il faut essayer de montrer les choses de manière précise. Je terminerai sur une chose. Pourquoi il y a un décalage? Vous me demandiez tout à l'heure s'il y a un décalage entre les perceptions
et les
travaux. Oui, mais bien sûr, il y a un décalage parce qu'on ne prend pas le temps d'expliquer pourquoi, avec un taux de chômage de 10% en France, on peut avoir besoin d'immigration à court ou moyen terme. C'est pas une équation simple. En réalité, vous pouvez avoir un chômage de 10%, mais vous avez aussi des difficultés de recrutement, des pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail.
Ce que vous voulez dire, c'est que immigrés et natifs, comme vous dites, sont complémentaires.
Sont complémentaires sur le marché du travail. Et en plus, il y a des difficultés de recrutement, c'est-à-dire qu'il y a des pénuries relatives de main-d'œuvre. Le MEDEF les évalue à 320 000 emplois, c'est-à-dire offerts par les entreprises qui ne trouvent pas preneurs. Et l'enquête de Pôle emploi, c'est à peu près 200 000. Donc, on reçoit chaque année 20 000 migrants de travailleurs en France, de migrants économiques. Vous voyez bien qu'il y a un écart, c'est-à-dire qu'au fond, le taux de chômage, les mécanismes qui régulent le taux de chômage et les mécanismes qui sont à l'origine de la création d'emplois ne sont pas les mêmes. Et donc, on peut très bien avoir un taux de chômage élevé et pourtant, ça et là, dans des métiers en tension, où il y a des pénuries de main-d'œuvre, des difficultés de recrutement qui font qu'on a besoin d'immigrer. Et puis, comme les tâches sont complémentaires, moi je cite toujours l'exemple d'un marteau-piqueur à manipuler. Voici une tâche qui n'est pas une tâche simple, qui est une tâche pénible, répétitive, routinière, qui n'est pas robotisable et pour laquelle l'immigrant qui arrive rentre nécessairement en complémentarité avec le natif dans le bâtiment.
Flore Guber, lors d'une précédente émission à laquelle vous étiez, vous aviez insisté à la fin de l'émission sur l'aspect positif pour l'économie de l'arrivée des migrants. Ce que vient de dire El Moumoun semble un peu en décalage par rapport à ce que vous disiez à ce moment-là. C'est-à-dire il est moins optimiste, moins porté à dire que c'est positif pour l'économie. Jean-Christophe Dumont était un peu aussi en décalage.
Je ne ressens pas ce décalage moi personnellement, mais je pense que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Moub, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance à considérer que l'arrivée de migrants sur un marché du travail va conduire à une baisse des salaires, que les migrants vont exercer une concurrence avec les autochtones, et de fait, c'est vrai que ce qu'on observe dans la plupart des travaux, c'est qu'il y a effectivement une complémentarité entre le travail immigré et puis le travail des natifs, quoi. Après, on pourrait aussi se focaliser sur d'autres aspects. Quelque chose qu'on entend très souvent et qui est aussi là encore un mythe, c'est le fait que au fond les immigrés seraient attirés par des politiques redistributives qui seraient très favorables et donc seraient attirés par les transferts sociaux dont ils pourraient bénéficier et qu'en fait ce sont que des paresseux qui viennent ensuite taper aux portes des organismes sociaux pour bénéficier de transferts. Là encore, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que la principale motivation de migrer des individus, c'est d'aller chercher du travail. C'est le travail, quoi. Hein. Donc, et c'est vrai aussi pour la migration familiale. On a tendance à dire, en fait, en France, on subit la migration de qui vient en fait au titre du regroupement familial, et donc on hérite de familles entières qui n'ont aucune contribution à l'économie. Sauf qu'on oublie de dire que ces familles, ces femmes, ces jeunes actifs, ils viennent aussi pour travailler et que voilà.
Alors on va partir en Turquie, la Turquie qui accueille officiellement plus de 2 700 000 réfugiés syriens, moins de 10% d'entre eux vivent dans des camps, la grande majorité se débrouille seule et doit gagner son pain pour survivre, une main-d'œuvre bon marché, parfois perçue comme une concurrence loyale par les Turcs, surtout dans un contexte de déclin économique à la suite de la tentative de coup d'État. Si ces migrants peuvent contribuer à l'enrichissement du pays, les mesures concrètes d'intégration manquent encore. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Camille La France à Istanbul.
Dans son salon étriqué, assis sur un tapis, Mohamed raconte son arrivée d'Alep il y a 3 ans avec sa femme et leurs 5 enfants. Il s'était rapidement trouvé un emploi de charpentier à Ankara avec son fils de 13 ans.
Un jour, mon fils est revenu et m'a dit qu'il n'y avait plus de boulot. J'ai demandé pourquoi et ils m'ont répondu « Vous, les Syriens, vous avez des salaires et des aides en plus. Alors le travail n'est plus pour vous. »
Comme eux, beaucoup de Syriens travaillent illégalement en Turquie. Ils n'ont qu'un statut d'invité placé sous protection temporaire. Des ONG dénoncent leur exploitation dans certaines usines qui emploient aussi donc leurs enfants. Depuis janvier 2016, le gouvernement leur délivre des permis de travail sous conditions et c'est à leur employeur de proposer leur candidature et de s'acquitter des charges qui en découlent. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, seuls 5000 permis ont ainsi été délivrés en plus d'un an. Les Syriens qui bénéficient d'un permis de résidence, autre statut qui ne concerne que 4% d'entre eux, seraient seulement 13 000 à avoir obtenu des permis de travail depuis 2011, toujours selon le HCR. C'est le cas de Mohamed. Bijoux en or, diamants, tissus anciens, il conserve précieusement dans son téléphone une vidéo de son magasin dans le souk d'Alep. Tout ce qu'il en reste, il assure avoir perdu 8 millions de dollars qu'il aurait regagné à Istanbul grâce à une affaire florissante de foulards haut de gamme.
Je paye chaque mois 6 000 livres pour la permission d'entreprise. Je paye les impôts. En 2013, juste pour les douanes, j'ai payé 1 million de dollars. Et où vont-ils ? À ma mère ? À mon père ? Non, au gouvernement.
Les Syriens sont aussi des consommateurs, des locataires, des ouvriers. Leur impact est donc positif, souligne la Banque mondiale. D'après l'Union des chambres de commerce et bourses de Turquie, les premiers investissements directs étrangers dans le pays sont d'ailleurs désormais syriens. Ils représenteraient 30% des créations d'entreprises. La fondation TOAV et ses 170 avocats leur apportent une aide légale à la frontière.
Le gouvernement voit cette question d'une manière temporaire. En fait, plus de 500 000 Syriens travaillent en Turquie, mais 90% dans le secteur informel.
Un avis que partage le chercheur Murat Erdoğan à la tête du Centre Migration et Politique d'Ankara.
Les permis profitent surtout aux personnes qualifiées, éduquées. Les gens sans éducation sont plus vulnérables. Même si un migrant connaît ses droits, qu'il parle la langue, ça ne suffit pas.
De nombreux experts soulignent que l'emploi des Syriens a provoqué le déplacement de travailleurs turcs non qualifiés et augmenté la taille du secteur informel.
Un reportage signé Camille Lafrance à Istanbul. Jean-Christophe Dumont, vous portez la parole de l'OCDE sur ces questions migratoires. Cette situation turque, qu'est-ce qu'elle vous inspire sur l'apport des migrants ?
Bon, évidemment, on a, dans le cas de la Turquie, affaire à une situation qui est exceptionnelle de par l'ampleur du flux qui est impliqué. Officiellement, un petit peu moins de 3 millions, peut-être plus en réalité. Et je pense que le reportage le souligne bien. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été déjà menés sur la Turquie, sur l'impact sur le marché du travail, avec un effet différencié selon qu'on parle du marché du travail formel ou informel, où il y a plutôt des effets positifs sur le marché du travail formel et même des effets d'augmentation des salaires, et sur le marché du travail informel, plutôt une concurrence accrue. Alors c'est vrai que c'est renforcé par cette difficulté pour obtenir des permis de travail pour les Syriens en Syrie, 13 000 permis octroyés au jour d'aujourd'hui sur un flux aussi important, c'est évidemment très peu. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'une partie de l'économie turque est elle-même informelle déjà au départ. Et puis que ces flux sont aussi concentrés dans certaines régions spécifiques de la Turquie, notamment frontalières de la Syrie, et puis évidemment Istanbul. Je pense que ça nous renvoie effectivement à la question qui était évoquée tout à l'heure, et disons cette analyse de l'impact économique de l'immigration est souvent présentée à la fois en jouant sur les peurs, et d'une façon très simplificatrice. Je pense que notamment l'intervention de Marine Le Pen était exactement sur ce registre. Jouer sur les peurs, pourquoi ? Parce que en fait, les flux sont bien moins importants qu'ils n'en ont l'air. Pas plus de 100 000 immigrations nettes.
100 000 immigrants
en net, c'est-à-dire entre les entrées et les sorties hors Union européenne, pour un pays de plus de 60 millions d'habitants.
Là, vous parlez de la France. Là.
Bien sûr, c'est tout à fait limité, et pas du tout dans l'ampleur de ce qu'on observe en Turquie. Et par ailleurs, on mentionne le fait que, évidemment, c'est un marché avec une offre et une demande, mais c'est un marché, justement, qui n'est pas fermé. Et donc, comme c'est aussi indiqué dans votre reportage sur la Turquie, le fait qu'il y ait un afflux de population contribue à augmenter la taille de ce marché. le fait qu'il y ait plus d'immigration contribue à augmenter la demande de travail. Donc toute la question est la question de la complémentarité. Alors il y a des cas où il y a une forte substituabilité, le secteur informel par exemple en Turquie, il y a des cas où il y a plutôt une forte complémentarité et d'où on attend un impact positif sur les salaires.
Eh bien nous continuerons à parler de toutes ces questions passionnantes dans la deuxième partie de l'émission après un flash d'actualité dans environ 3 minutes. Restez à l'écoute.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à l'impact économique des migrations dans les pays d'accueil. Trois invités dans cette émission, Fleur Gubert, directrice du département Société de l'Institut de Recherche pour le Développement, Jean-Christophe Dumont, chef de la division Migrations Internationales à l'OCDE, et Elmoub Mouhoud, professeur d'économie à Paris Dauphine, auteur du livre L'immigration en France aux éditions Fayard. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons évoqué la situation en France, comme en Turquie, plus largement en Europe. On n'a pas encore fait le tour de la question. Jean-Christophe Dumont disait tout à l'heure que l'arrivée des migrants en Turquie avait contribué à l'amélioration de l'activité économique dans le pays et peut-être à l'augmentation des salaires et une amélioration du marché du travail,
dans
de l'emploi.
Dans le secteur formel.
Elmoud, quel est le mécanisme économique qui fait que l'arrivée de migrants, donc plus de travailleurs, améliore la situation sur le marché du travail et ne la dégrade pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière peut-être ingénue?
Comme cela a été dit par Jean-Christophe, le marché du travail n'est pas statique. C'est-à-dire que quand les immigrants arrivent, ils vont aussi stimuler un certain nombre
de besoins,
de catégories, d'abord la productivité, l'innovation, et puis effectivement de besoins, de consommation. Alors quand les flux sont importants, comme c'est le cas en Allemagne, les immigrants vont être des consommateurs également. Donc la taille du gâteau, elle change. Et donc ça donne de l'air à l'économie, et ça permet en effet d'avoir un effet positif sur les pays d'accueil. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça n'est pas l'immigration qui va déclencher un processus de croissance. Mais en revanche, lorsque l'économie se met en œuvre, et qu'il y a des immigrants, toute la littérature, tous les expériences aussi naturelles qui existent montrent que les effets sont tout à fait positifs sur les économies d'accueil. Et ceci, indépendamment de ce qui a été dit, enfin, contrairement à ce qui a été dit par Marine Le Pen tout à l'heure dans l'intervention que vous avez retracée. En fait, il y a deux optiques qui sont fausses. Il y a une optique qui consiste à dire l'offre de travail augmente par rapport à la demande, donc dans les salaires baissent. On a la même vision un peu dans une approche marxienne de type armée industrielle de réserve. C'est comme si l'armée industrielle de réserve s'accroissait et que du coup les travailleurs sont mis en concurrence entre eux pour une même taille de gâteau, et donc à ce moment-là les salaires diminueraient. Mais en fait il faut intégrer le fait que la demande sur le marché des biens augmente et que la production est donc va être stimulée d'une part, et il faut aussi intégrer le fait que quand les immigrants arrivent ils vont occuper des emplois que n'occupent pas les natifs, en particulier des tâches. Maintenant on est très précis là-dessus parce qu'on arrive à décomposer les catégories socio-professionnelles, ouvriers, ingénieurs, techniciens, ouvriers peu qualifiés, en regardant les tâches que porte chacun des travailleurs.
C'est-à-dire les études, les chercheurs.
Voilà, les chercheurs. On a par exemple les données de déclaration sociale en France, qui sont très très précises. C'est pas des données d'enquête, c'est des données très exhaustives et qui sont liées au fait que les entreprises déclarent à l'administration fiscale les caractéristiques de leurs employés. Donc quand on regarde ce qui se passe réellement, c'est que les immigrés arrivent, ils vont, pour une même catégorie socio-professionnelle, occuper des tâches routinières ou répétitives qui vont permettre aux natifs d'aller vers des tâches plus rémunérées, mieux rémunérées, plus cognitives, etc. Et ceci montre la complémentarité entre les besoins du marché du travail et les immigrants. Quand il y a de la substitution, quand il y a de la concurrence, ce qu'on montre aussi dans les pays industrialisés, c'est plutôt que les immigrants, en quelque sorte, les vagues récentes d'immigration se concurrencent entre elles. C'est pas les natifs qui sont concurrencés par les migrants, ça n'est pas non plus les enfants issus de l'immigration qui sont concurrencés par les nouvelles vagues d'immigration. C'est par exemple au Portugal, l'arrivée d'Ukrainiens et de Moldaves massives dans les années 2000 a concurrencé plutôt les Capverdiens que les Portugais. Donc ceci, en France aussi, se voit. Donc il y a des endroits, des mécanismes mécanismes de substitution de concurrence dans certaines localités et dans certains secteurs, mais la concurrence, elle touche les migrants entre eux. Et en fait, vraiment, là, c'est un peu de la mauvaise foi que de ne pas reconnaître ce phénomène de complémentarité et cet apport positif de l'immigration. Et c'est de la mauvaise foi parce qu'on exploite la peur des crises. De même que aux États-Unis, les regards que porte Trump, c'est à la fois les travailleurs, les immigrants mexicains et les musulmans, et d'un côté, et puis les produits qui rentrent. Mais en fait, on s'intéresse pas à ce qui est vraiment l'impact fort de sur l'économie, qui est finalement l'impact positif, qui est tout à fait avéré.
Flore Gubert a écouté El Moumoud. On aurait intérêt en France à prendre beaucoup plus d'immigrés.
Après, il y a la question de la capacité de l'économie à absorber des flux importants. Encore une fois, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les migrants, ils sont effectivement pas que des travailleurs, ils sont aussi des consommateurs, ils sont aussi des personnes qui ont besoin de se loger, de mettre leurs enfants à l'école, et donc tout ça s'organise. Et c'est vrai que, alors, on a les moyens d'accueillir bien plus que ce qu'on accueille. Hein, je pense en particulier là aux dernières vagues de réfugiés où péniblement on a accepté d'accueillir 30 000 réfugiés. Je pense qu'un pays comme la France, qui compte plus de 60 millions d'habitants, aurait eu les moyens d'accueillir beaucoup plus de réfugiés que ça.
C'est l'avis de la citoyenne ou c'est l'avis de l'économiste qui étudie les conditions d'insertion dans un marché du travail ou dans une économie?
Pour relativiser le chiffre de 30 000 réfugiés, je vais avoir recours à ce que dit souvent Jean-Christophe Dumont quand on l'interroge là-dessus, c'est-à-dire que combien il y a de communes en France, il y a plus de communes que 30 000. Quoi.
Jean-Christophe Dumont, vous confirmez que c'est votre position?
Ouais, je confirme qu'il y a des pays en Europe qui ont fait beaucoup plus. La Suède a reçu l'équivalent de 1,6% de sa population en termes de demandeurs d'asile en 2015 et en 2016 beaucoup moins, mais la France environ 10 fois moins que la Suède en proportion de sa population. Donc si la Suède a rencontré des difficultés extrêmement importantes dans l'accueil, simplement le logement, et puis effectivement pour maintenir un niveau disons de service en termes d'intégration, de cours de langue, d'accès à l'école, à la santé, etc. Des difficultés importantes.
Ouais. Est-ce que la Suède s'en est bien sortie sur le plan économique? Quel a été l'impact de l'arrivée de ces migrants?
C'est intéressant parce qu'effectivement, alors d'abord à l'échelle de l'Europe, à la fois les estimations qui avaient été faites par l'OCDE, mais aussi par la Commission européenne, montraient que sur cette première année, l'afflux de réfugiés avait eu un effet en fait de stimulation de la croissance par une relance finalement de la dépense par le biais de la dépense publique, sachant que la plupart des coûts qui sont associés à l'accueil des réfugiés sont en fait des coûts qui sont liés à la production locale, quoi. Ça se traduit par une augmentation des importations. Et en Suède particulièrement, ça a boosté la croissance de plusieurs points, mais évidemment, il faut pas regarder que cet effet de court terme dans le cas de l'accueil des réfugiés. D'abord, il y a deux, alinéas qu'il faut ajouter. Le premier, c'est qu'on n'accueille pas des réfugiés pour des raisons économiques. Ça, c'est le premier point. Et le second alinéa, c'est qu'il faut pas regarder que l'effet de court terme, qui effectivement est positif, mais aussi regarder l'effet de long terme. Et l'effet de long terme qui passe par l'efficacité et l'ampleur de l'investissement qui est nécessaire en termes d'intégration pour permettre que ces gens qui arrivent donc dans des conditions particulièrement difficiles acquièrent les compétences linguistiques, les compétences en général, pour pouvoir contribuer à l'économie. Ça requiert un investissement. Donc tout ce qu'on dit ici sur la migration, son rôle positif sur l'économie, sur la croissance, c'est tout à fait justifié, notamment par les travaux, les expériences historiques, etc. À condition néanmoins qu'on permette aux gens qui arrivent de faire, l'effort supplémentaire en termes d'apprentissage de la langue et encore une fois d'amélioration des compétences qui permet de valoriser les compétences qu'ils apportent, parce que il y a aussi des échecs, quoi.
Alors on y vient, l'apprentissage de la langue, c'est quelque chose que les Allemands se posent et organisent pour leurs migrants. L'Allemagne, c'est un pays qui a accueilli beaucoup de migrants, plus d'un million au cours des années 2015-2016. Or, l'économie allemande, comme la suédoise, a été dopé par l'arrivée de ces réfugiés. Ce sont des chiffres officiels. Le PIB a connu, le produit intérieur brut, a connu une croissance d'1,5% de plus que ce qui était prévu en 2016 grâce à ces migrants. 140 000 demandeurs d'asile arrivés de longue date dans le pays ont trouvé un emploi, mais l'intégration sur le marché du travail sera longue pour les derniers arrivés, qui sont 340 000 à chercher un emploi, ils doivent d'abord apprendre l'allemand, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Nathalie Versu à Berlin.
Une vingtaine de garçons et de filles ont pris place sur les chaises dans une salle de classe de la banlieue de Stuttgart. Dans la région, l'économie tourne à plein régime et les Verts au pouvoir depuis 2006 ont fait de l'intégration des réfugiés l'une de leurs priorités. Le lycée professionnel d'Esslingen aligne ses bâtiments des années 60. Au menu ce jour-là, pour la vingtaine de jeunes réfugiés, la déclinaison de l'article Der Didas. La maîtrise de l'allemand est indispensable pour trouver un emploi.
Der Didas.
Omar, un jovial gambien de 20 ans, en est encore à trouver ses repères.
En Allemagne, il y a beaucoup de règles. Il faut être ponctuel, il faut faire ce qu'on nous demande, respecter le matériel, ne rien casser, ne pas devenir criminel. Ici, il faut toujours penser aux règles, mais c'est bien.
Plus de 100 000 réfugiés sont comme Omar, arrivés en 2015 dans le Bade-Württemberg. La moitié a moins de 25 ans. Un millier d'entre eux ont pu commencer en septembre une formation professionnelle. Mais une tâche colossale attend le pays, comme le rappelle Gary Pavkovic, responsable de l'intégration des réfugiés à la mairie de Stuttgart.
Les gens sont trop impatients. Ici, on aimerait voir arriver des médecins syriens parlant allemand, anglais ou le dialecte souabe, dont les diplômes sont reconnus par l'État, connaissant la Constitution sur le bout des doigts, et prêts à travailler dès le lendemain à l'hôpital. Mais ça ne marche pas comme ça. L'intégration prend du temps. Il faut déjà plusieurs années pour apprendre l'allemand, se former et obtenir les diplômes qui permettent de travailler en Allemagne.
L'exemple du Bade-Württemberg est symptomatique pour le pays. Les PME aimeraient embaucher de jeunes réfugiés qualifiés qu'elles ne trouvent pas encore sur le marché. Les réfugiés en sont encore à trouver leur marque dans un pays dont ils ignorent tout.
Un reportage signé Nathalie Versieux à Berlin, Écho d'ici Écho d'ailleurs. Nous parlons de l'apport économique des migrants dans les pays d'accueil avec trois invités. Jean-Christophe Dumont, chef de la division migration internationale de l'OCDE, Helmut Mood, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, et Flore Gubert, directrice du département société de l'Institut de la Recherche pour le Développement. Vous voyez prendre des notes tous les deux, Flore Gubert et Helmut Mood, sur ce reportage. Qu'est-ce qui vous inspire cette nécessité d'apprendre la langue, cette insertion sur un marché du travail qui est complexe?
Moi, ce que je trouve intéressant, et dans ce qui a été dit dans le reportage, c'est que les Allemands souhaiteraient ne pas payer le coût et avoir, disons, recevoir des réfugiés qui sont déjà diplômés, qui parlent déjà la langue. Dans l'idéal, il faudrait que, en fait, bénéficier d'un investissement qui aurait été réalisé par le pays d'origine, au fond. C'est-à-dire que c'est le pays d'origine qui prend en charge le coût des diplômes, le coût de formation, mais ensuite, c'est le pays d'accueil qui bénéficierait, qui tirerait les fruits de cet investissement-là. Et donc, je trouve que, fondamentalement, si on voit les choses comme ça, on s'aperçoit bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est-à-dire que surtout si on n'oublie pas que le pays de départ est un pays en crise, et donc on voit bien le déséquilibre qu'il peut y avoir. Alors c'est vrai qu'après, évidemment, il faut aussi raisonner en termes de coût d'investissement et puis du bénéfice ensuite qu'on peut en attendre. Là, tel que les choses sont présentées, ça pose pas particulièrement de problème éthique de se dire que on tire des bénéfices sans en payer le coût, quoi. Et je trouve ça pas très surprenant.
Les migrants, ils sont souvent bien formés quand ils
D'abord, il y a une hétérogénéité, il faut bien le reconnaître. Ce qui différencie des migrants économiques, des migrants liés
humanitaires
ou même climatiques, même si ça n'existe pas encore, du point de vue statistique ou de la définition internationale, c'est que les migrants économiques viennent parce qu'ils ont déjà la possibilité d'avoir un emploi. Donc leur niveau, leur durée d'insertion sur le marché du travail est beaucoup plus rapide que pour les réfugiés humanitaires. Et donc il y a une problématique de coût transitionnel pour les réfugiés, qui est normal.
Et
pour les pays d'accueil, bien entendu. Ouais. Ils arrivent. Alors, ils sont plutôt relativement bien qualifiés. Les enquêtes montrent que il y a une partie d'entre eux qui est relativement bien qualifiée, bac et plus, mais il y a aussi des non qualifiés, puisque parmi eux, ceux qui partent, ils partent pour des raisons de violence dans leur pays d'origine, de choc, et donc quand ils arrivent, eh bien évidemment, il y a une relative hétérogénéité de ce genre de personnes, mais il y a surtout un problème de transférabilité des connaissances, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des compétences, des qualifications, mais Leur transférabilité dépend de deux choses, de la durée d'insertion sur le marché du travail qui dépend de la nécessité d'avoir très rapidement le statut de protégé et de ne pas rester dans la zone grise où on est juste demandeur d'asile, on n'a pas le droit de travailler. Donc là, il y a un coût pour le pays d'accueil. Plus on accélère la procédure, plus on gagne, en quelque sorte. Et puis, deuxième élément qui fait que c'est plus compliqué, eh bien, il y a la question de la langue. Parce que dans le cas des migrations économiques, en général, l'effet de réseau compte, c'est-à-dire qu'on va plutôt dans des endroits où on parle la langue. S'agissant des migrations humanitaires, on voit bien que la plupart des gens sont plutôt partis dans les pays voisins, 2 millions en Turquie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jordanie, je parle de la Syrie, hein, des Syriens, ouais. Et puis seulement 1,4 million sont arrivés dans les pays de l'OCDE, dont 1,2 million, 1,3 million en Europe. Et donc en fait, quand ils arrivent, ceux-là ne parlent pas nécessairement la langue du pays d'accueil, et là, dans le cas de l'Allemagne, il y a eu un gros effort d'investissement dans l'accueil, et c'est un investissement qui peut être tout à fait gagnant pour le pays d'origine. Donc considérer l'immigration comme un phénomène d'investissement, c'est quelque chose que les économistes ont réussi ces dernières années à documenter. J'ajouterai juste une chose, le problème qui s'est posé, c'est pas un problème d'absorption. L'Europe est parfaitement capable d'absorber les 1,2 million ou 1,3 million de migrants qui sont arrivés récemment. C'est un problème de non-coordination entre les États membres. C'est si les États membres avaient accepté le jeu coopératif de répartition des migrants sur plusieurs pays en fonction de critères précis, comme la Commission l'avait proposé, nous n'en serions pas là. Parce que là, pour l'instant, on a un problème de concentration sur trois pays. On avait dit la Suède, l'Autriche et l'Allemagne, et des entrées sur très peu de pays, et des pays qui auraient pu prendre leur part, comme la France, pour des raisons humanitaires, ne l'ont pas prise.
Jean-Christophe Dumont, est-ce qu'à l'OCDE, on sait combien coûte un migrant qui arrive pour être inséré? Est-ce qu'on a documenté ça?
D'abord, c'est un calcul qui est difficile à faire parce que, en termes d'intégration, les responsabilités sont souvent partagées entre l'échelon national et les échelons locaux. Donc c'est pas forcément un calcul très simple à faire, mais surtout c'est un calcul qu'il faut distinguer selon les catégories de migration. En ce qui concerne les réfugiés, encore une fois, la raison principale pour laquelle on accueille ces personnes qui fuient, disons, les persécutions et la guerre, c'est pour des raisons humanitaires, et donc on sera pas surpris qu'il y ait un coût à leur accueil. Il est estimé entre 10 et 12 000 euros pour la première année, mais encore une fois, l'objectif est que ces personnes le plus rapidement possible, si elles n'ont pas vocation à retourner rapidement dans leur pays d'origine, parce que, notamment dans le cas de la Syrie, évidemment la situation est toujours intenable, ben, que ces personnes puissent contribuer le plus rapidement possible à l'économie du pays, qu'elles ne reçoivent plus donc de prestations comme celles auxquelles elles ont droit en arrivant, et qu'elles contribuent comme le font tout un chacun et les migrants en général. Ce qu'on sait pour l'ensemble des migrations dans les pays de l'OCDE, c'est que les migrants versent plus en contributions sociales et en taxes qu'ils ne reçoivent en prestations individuelles. Le bilan fiscal, d'un point de vue individuel, est net et positif. Alors évidemment, il y a d'autres coûts qu'il faut prendre en compte, des dépenses générales de dépenses publiques, etc. Cela dit, bon, voilà, ça c'est pour les migrants, enfin, en général. Les migrants de travail, ceux qui arrivent avec une offre d'emploi, ceux-là, le coût est nul. Ils arrivent et en fait, il est positif immédiatement, ils contribuent immédiatement. Pour ceux qui viennent au titre du regroupement familial, là aussi, la question est, disons, pas forcément fondée sur des déterminants économiques, mais sur des accords internationaux, sur des engagements que les pays de l'OCDE prennent vis-à-vis du droit à vivre en famille. Donc là aussi, les arguments économiques, même s'ils sont importants, sont quand même de deuxième ordre.
Alors on va traverser l'Atlantique, un autre pays là-bas s'intéresse beaucoup à ces questions migratoires, c'est même au sommet des préoccupations gouvernementales. Aux États-Unis, après ses promesses de campagne, Donald Trump est passé aux actes, il vient de renforcer, dans les mots en tout cas, la politique de contrôle des étrangers. Tout migrant, d'abord clandestin, qui pourrait présenter un danger pour la sécurité nationale aux yeux des officiers de police, pour être expulsé, et ces mesures inquiètent. Pourtant, dans la Central Valley, en Californie, la région est le jardin potager des États-Unis, et les agriculteurs blancs commencent à regretter d'avoir voté Trump. Écoutez ce reportage éco-dissieco d'ailleurs, signé Nicolas Champeau, dans la Central Valley.
Logé entre les montagnes enneigées de la Sierra Nevada et les collines verdoyantes de la Coast Range, il y a des champs et des vergers à perte de vue dans la Central Valley. Tout y pousse, oranges, laitues, brocolis, tomates, blé. Ce sont surtout les vergers d'amandiers qui composent le paysage de la ferme de Josh Pitigliano à Porterville. Josh tient dans la main une tablette numérique et fait dérouler sous nos yeux son application Ag Jobs for You.
When it was time to harvest the almond crop,
l'an dernier, Josh a eu toutes les peines du monde à réunir assez de main-d'œuvre pour la récolte, alors il a décidé de mettre en contact directement les ouvriers agricoles et les employés plus qualifiés qui cherchent du travail avec les exploitants. En un an, il a récolté plus de 4000 CV, la plupart envoyés par des étrangers. Selon lui, les trois quarts des personnes employées dans la filière agricole en Californie sont des immigrés. La majeure partie vient du Mexique, plus au sud. Mais son application ne fait pas de miracle. Aux États-Unis, c'est le plein emploi et l'agriculture n'est pas la priorité des Américains. Tricia Stever-Blatter est la responsable du Farm Bureau pour le comté. Le Farm Bureau est l'une des principales organisations patronales de la filière agricole.
What agriculture does is reach out to find people that are usually immigrants.
La filière agricole a l'habitude de se tourner vers les immigrés. Pour eux, c'est leur première opportunité de travail à leur arrivée aux États-Unis. Ils accomplissent des tâches manuelles qui sont difficiles. Ils ramassent les fruits, traient les vaches, ils gèrent même les fermes ou conduisent des tracteurs. Les Américains ne sont pas intéressés par ces emplois stigmatisés comme étant très difficiles et exigeants. Donc ces tâches sont remplies par des gens qui sont nés à l'étranger. Trump a dit qu'il souhaitait changer les lois sur l'immigration aux États-Unis. Et ici, il y a cette réelle crainte que ces consignes de déportation et de contrôle plus strictes soient réellement mises à exécution, car cela risquerait d'éloigner de Californie la main-d'œuvre immigrée.
La Californie a voté Clinton. La démocrate a recueilli 61% des suffrages dans l'État, mais à tout l'arrêt, Trump a terminé en tête. Tom Barcelos, un important éleveur laitier, a depuis des semaines deux postes vacants à la traite et il ne trouve pas de preneur. Barcelos a voté Trump, mais il espère qu'il n'exécutera pas scrupuleusement son programme en matière d'immigration, notamment au niveau du fameux mur avec le Mexique.
Il y a différents types de murs. Nous avons eu une conversation avec Donald Trump quand il est venu ici en campagne. Et il nous a assuré que ce mur aurait une porte. Et j'espère que l'on va corriger la situation de l'immigration et fluidifier les contrôles pour permettre aux immigrés de venir travailler. On va s'en sortir au niveau de la main-d'œuvre, mais ne nous voilons pas la face. Les Américains ne vont pas faire ce type de travail.
Les agriculteurs disent qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier la régularité de la situation de leurs ouvriers agricoles. Les organisations qui viennent en aide aux clandestins ne sont pas dupes. Les immigrés contribuent à l'économie tout au long de la chaîne. Tout l'arrêt compte un peu moins d'un demi-million d'habitants. Si l'on cumule les emplois indirects et les emplois directs, 3 actifs sur 4 sont employés grâce à la filière agricole dans ce comté du Golden State.
Un reportage signé Nicolas Champeau en Californie, dans la Central Valley. El Moumoud, on revient encore à cette notion de complémentarité et puis aussi d'apport des immigrants à l'économie locale. Ils rapportent plus qu'ils ne coûtent.
Oui, il y a deux vallées qui se sont plaints des premières mesures de Trump. C'est la Central Valley et la Silicon Valley. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, au deux bouts de la chaîne des qualifications, on a des besoins de recrutement. Là, on voit bien qu'on a un certain nombre d'emplois qui sont dépendants de l'immigration parce qu'ils sont inélastiques au salaire, en plus. Vous pourriez très bien augmenter les salaires, ça ne changera rien à l'occupation de ces postes. Et en plus que les salaires ne se décrètent pas.
C'est-à-dire que même si les salaires étaient plus élevés, les Américains n'en voudraient pas.
Il y a une arme aussi en France qui consisterait à dire, mais oui, ces emplois très pénibles dans le bâtiment, dans l'agriculture, on a quoi augmenter les salaires, et à ce moment-là, les natifs les prendraient au lieu que ce soit les immigrés. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a une très faible élasticité à cause de la pénibilité de ces emplois, à cause de leur dureté, à cause des problèmes de santé qu'ils posent aussi. Eh bien, il y a une, même si on augmentait de 15%, allez, soyons très généreux, ce qui est absolument, évidemment, dans une économie non planifiée, difficile à faire, eh bien, on pourrait pas avoir une substitution des natifs aux travailleurs immigrés. Donc, première chose, un problème très fort qui va se poser pour l'agriculture, mais aussi l'agroalimentaire américaine. Puis, deuxièmement, le décret Trump sur les pays musulmans qui sont totalement stigmatisés, là, c'est des gens qualifiés, très qualifiés. Là où on a vu la Silicon Valley se mettre les principaux chefs d'entreprise se mettre en ligne de coalition avec la société civile pour dire non, bah parce qu'il y a à peu près 40% des scientifiques qui sont employés aux États-Unis et qui sont des gens qui sont issus de l'immigration ou immigrés et qui sont très très utiles à l'économie, à l'innovation et à la résilience de l'économie américaine. Donc, dans tous les cas, on a une belle expérience de ce qui pourrait se passer en France si l'outrance dans l'absurdité économique régnait.
Flore Gubert, vous partagez ce point de vue ?
Tout à fait. Et ce qui est amusant dans l'exemple qui nous a été donné là sur l'agriculture, c'est que pourtant il y a une expérience historique aux États-Unis qui a montré donc je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait le programme Bracero sous Kennedy hein, qui consistait à faire venir
dans les années 60,
c'est ça, qui consistait à faire venir des tas de migrants saisonniers du Mexique pour travailler dans l'agriculture, et puis Kennedy a décidé d'y mettre fin à ce programme en mettant en avant les arguments classiques hein, que ces migrants saisonniers faisaient baisser à la baisse les salaires et puis prenaient le boulot des Américains. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé une fois que ce programme a été interrompu? Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mécanisation de l'agriculture, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve ici l'idée de mise en avant par Moop, que en fait, il y a vraiment une complémentarité entre migrants et natifs, et que voilà, et que donc
Jean-Christophe Dumont, à l'OCDE, vous partagez, vous n'êtes pas exprimé sur cette complémentarité entre migrants et natifs en règle générale?
Il y a bien des façons de l'illustrer. Elle n'est pas systématique. Encore une fois, il peut y avoir des cas dans lesquels il y a effectivement concurrence, notamment avec les immigrants qui sont arrivés précédemment. Mais en moyenne, sur les 10 dernières années, dans les pays de l'OCDE, environ 15% des embauches dans les secteurs en forte croissance étaient le fait d'immigrés. Et donc, ça veut dire que les immigrés sont surreprésentés dans les secteurs qui gagnent de l'emploi, qui sont pour la plupart des secteurs qualifiés, pas que, mais pour la plupart. Plus intéressant, sur cette même période, les immigrés ont contribué pour 25% des entrées dans les secteurs en décroissance, ceux qui perdent de l'emploi, hein, ceux pour lesquels finalement les départs à la retraite sont plus importants que les nouvelles embauches. Et pourquoi ? On comprend bien pourquoi les immigrés ont un rôle à jouer, parce que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail voient pas ces emplois-là comme des emplois d'avenir, des emplois dans lesquels ils pourraient faire carrière puisqu'ils sont en train justement de péricliter. Et donc les immigrés, ils jouent un rôle très important aux deux bouts du marché du travail, à la fois pour les qualifiés et les non qualifiés, à la fois pour les secteurs en croissance et des secteurs en déclin. Et donc l'immigration est finalement un atout dont il ne faut pas se priver, si tant est qu'on puisse effectivement bien gérer le phénomène migratoire et notamment assurer des conditions d'intégration qui soient favorables avec l'investissement dont on parlait tout à l'heure.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci Jean-Christophe Dumont, merci Helmut Mood, merci Flore Gubert d'avoir participé à cette émission. Helmut Mood, je rappelle le titre de votre livre, L'immigration en France, mythes et réalités, aux éditions Fayard. Les auditeurs peuvent retrouver tout cela sur la page internet de l'émission Écho d'ici Écho, d'ailleurs sur le site www.rfi.fr. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.